On dit souvent que la vie est fragile, qu'elle ne tient qu'à un fil. Mais peut-on vraiment en avoir conscience tant qu'on n'a pas été confronté au pire ? Un accident, une agression, et l'on se retrouve face à la mort, face à soi-même. J'ai voulu rencontrer des personnes qui ont connu cette expérience et qui en sont revenues. Comprendre ce qu'il se passe au fond de soi, au moment de vérité. Comment vit-on quand on est hanté par de tels souvenirs ? Et comment peut-on envisager la deuxième vie qui commence après un trauma ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Marie-Josée. Sa vie a basculé le jour où elle a croisé la route d'un homme. Un homme qui sortait de prison, mais à l'époque, elle ne le savait pas. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Soyez les bienvenus. Marie-Josée a 62 ans. Elle est la seule à avoir survécu à une agression du tueur en série Patrick Tissier. 21 ans après les faits, elle en garde de graves séquelles. Marie-Josée ne se déplace plus sans ses béquilles, sa minerve et son assistance respiratoire.
Bonjour.
Patrick Tissier avait déjà été incarcéré à deux reprises. 20 ans de prison pour un meurtre et plusieurs viols. Mais en 93, lorsqu'il rencontre Marie-Josée, il se dissimule derrière l'apparence d'un homme tout à fait banal. Le 13 septembre, elle échappe à une mort atroce lorsqu'elle reçoit chez elle cet homme dont elle ignore qu'il est un tueur en série.
Vous l'avez connu où, ce Patrick Tissier ?
Dans une réunion de produits de régime.
Donc ce Patrick Tissier se trouvait dans l'assistance ?
Dans l'assistance.
Vous avez souvenir de la première fois où vous l'avez vu ?
Ah oui, un homme très, très bien, très posé. Au premier abord, c'était un homme avec qui on pouvait donner toute
confiance.
Toute confiance.
Ouais. Est-ce qu'il vous fait part un petit peu de sa vie
La seule chose qu'il nous expliquait, il faisait que nous en parler, c'était que sa compagne avait une petite fille qui s'appelait Karine, qui avait 10 ans. Il nous expliquait, mais que ça.
Patrick Tissier annonce aussi chercher du travail. Marie-Josée, en confiance, lui propose alors de participer au déménagement de son entreprise. Une mission courte, après laquelle Marie-Josée n'avait aucune raison de le revoir. Et pourtant, le 10 septembre, à 21h, l'homme sonne à sa porte.
Vous lui ouvrez ?
Je lui ouvre.
Mais vous le laissez rentrer aussi ?
Mais oui, il me dit, je vais te faire voir la photo de la petite Karine. Je lui dis, 5 minutes.
Vous laissez rentrer quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien, mais que vous connaissez quand même
un minimum.
Et qui vous a présenté quand même patte blanche.
Et qui m'a aidé. C'est ça le problème. Mm-hmm. Qui m'a aidé gentiment.
Donc il n'avait aucune raison de vous agresser.
Ah non.
Évoquer ce souvenir-là, c'est quelque chose pour vous qui est difficile aujourd'hui ?
Oui.
Toujours.
Je vais vous dire, ça va être la deuxième fois que je rentre dans ma chambre aujourd'hui.
D'accord.
Depuis 21 ans.
Quand vous rentrez dans cette
oui.
maison,
oui.
vous vous dites qu'il est venu ici, en fait. On se le dit, ça ?
Oui. À chaque fois.
À chaque fois, oui.
Cette maison, c'est celle des parents de Marie-Josée. Elle rend visite à son père régulièrement, mais à chaque fois, elle évite soigneusement de monter à l'étage, là où se trouve sa chambre, lieu de son calvaire. En 1993, Marie-Josée est en pleine instance de divorce et habite temporairement cette maison. Ce soir-là, elle est seule car ses parents sont partis quelques jours en vacances.
Il m'a posé la photo de Karine. Il me dit « Regarde-la comme elle est jolie, regarde-la ben, ». Je lui dis « Je prends la photo, je l'ai regardée ». Je dis « Oui, c'est vrai, elle est fine, elle est jolie, elle a l'air douce et tout ». Et puis je lui dis « Bon, ben, écoute, maintenant ça va Tu t'en vas, moi j'ai beaucoup de travail à faire. » Et il vient se mettre pratiquement à genoux. Et puis il me dit, j'ai envie de coucher avec toi. Et là je lui dis, non mais ça va pas. Tu t'en vas, tu prends la portée en vitesse.
Il vous a écouté ?
Il l'a fait. Et j'ai pas fermé le verrou.
Vous ne fermez pas le verrou ?
Là, je m'en veux.
Mm-hmm. Vous reprenez normalement le cours de votre soirée ?
Je me rassois. Je regarde la télé. Et quand je vais pour monter, donc je vérifie si la porte est bien fermée. Ah là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mm-hmm. C'est pas possible. Bon, puis je suis montée. Je connaissais la maison par cœur, moi. Je monte dans le noir. Je m'approche de ma chambre. Je rentre. dans le noir, hein, toujours. Je m'approche du lit, je tâtonne. Puis il bougeait pas. Et puis j'ai crié. Et je dis, qui c'est? Puis là, il répond, mais c'est moi. Comme si c'était normal. Et je lui dis, tu t'en vas immédiatement. Hein. Puis tout d'un coup, dans la rue, il y a un bruit. Je dis, ça y est, c'est l'alarme de ma voiture qui sonne. Je traverse la chambre de mes parents, qui est juste en face. Et je vais à la fenêtre. Et c'est là que je m'aperçois que c'était pas ma voiture.
Vous ne pensez pas, à un moment, ensuite, à vous mettre à l'abri? Vous dire qu'il y a un homme dans votre chambre qui s'est introduit
chez
vous?
J'allais le faire partir en vitesse. Puis je reviens. Je ne voyais pas. Il était derrière la porte. Et j'entends un coup de foulard. Et clac.
Autour de votre cou.
Et il me jette sur le lit. Puis il serre le foulard. Avec une puissance... phénoménal.
Vous devez être transit de peur.
Ah, mais complètement. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce qui vous arrive?
Bien sûr.
J'essaye de crier au secours. Il me répond, te tracasse pas, tout est fermé. Personne ne t'entendra. Je vais t'achever. Puis moi, j'ai essayé de me débattre. Je lui ai donné un coup. Alors là, il m'a jeté à terre. Et il a sauté sur mon dos. J'ai entendu crac dans tous les sens. Hein.
Il vous sautait à pieds joints sur le dos?
Sur le dos. Et puis je sentais le sang qui coulait déjà. La bouche, le nez, les oreilles, les yeux.
Est-ce que vous vous laissez aller? Vous vous dites là maintenant,
je suis foutu, je ne peux plus rien faire. Voilà ce qui m'est passé dans la tête. Mmh. Et puis après, je suis tombé dans le coma. Et puis là, j'ai vu mon enterrement. C'est là que j'ai compris que j'étais morte. Parce que j'ai vu mon cercueil. Vous vous rendez compte? Et après, je suis passée dans le tunnel.
Alors, racontez-moi ce tunnel, en fait.
C'est une grande luminosité très blanche. Et j'avais un homme devant, mais qui était tout flou, hein. Je ne peux pas dire son visage réel. Et puis il m'a dit que je redescendais et que j'avais des missions à accomplir. J'ai réalisé donc qu'il fallait que je parle pour qu'on m'arrête. Parce que j'avais ressenti qu'il allait recommencer. Et petit à petit, c'est là que je suis sortie du coma.
Marie-Josée m'emmène dans la chambre où s'est déroulée l'agression. Je sais que pour elle, 21 ans après, revoir ces lieux reste une épreuve.
Voilà, c'est les lieux du crime.
Le soir de l'agression, Marie-Josée réalise que l'homme est un assassin lorsqu'il prononce une phrase qui lui glace le sang.
Tu n'es qu'une garce. Tu es la seule à me résister. Là, j'étais mis, mon Dieu. Il a déjà fait. C'est pas sa première fois. Là, j'ai compris que c'était un tueur. J'étais bâillonnée. Des menottes dans le dos, et j'étais ficelée du haut des bras jusqu'au bout des pieds. Vous savez que pour tirer un corps mort, pareil.
Il a abusé de vous.
Oui, il a abusé de moi. Il a fait ce qu'il a voulu de moi, hein, pendant mon coma.
Qui a duré à peu près combien de temps, en fait?
2 heures. De toute façon, on a su après que c'était un homme qui tuait et qui violait après. Quand je suis sortie du coma, d'abord je lui ai dit « Pourquoi ?» Et je l'ai répété. Et au bout d'un moment, son visage n'était plus le même. Il avait tout loupé. Il n'avait pas réussi. Il était perdu. On aurait dit qu'il était perdu. Et puis il me répond, quand on refuse à un homme, on ne sait pas de quoi il est capable. Et j'ai dit, Marie, il faut résister pour le faire partir. Et puis il me dit, je vais partir, Mais promets-moi de ne rien dire. Croyez-moi que je me suis empressée de lui dire, mais je dirai rien.
Bien sûr.
Et avant de partir, il m'a déficelé.
Dans quel état vous vous trouvez à ce moment-là?
Ah, j'avais peur qu'il revienne. J'ai dit, il faut que j'appelle au secours.
Vous faites donc le numéro de vos amis?
Oui. Et dans l'ambulance, il y avait le docteur qui faisait que dire, elle n'arrive pas à l'hôpital. Elle n'arrive pas à l'hôpital. J'ai dit non. Il faut que tu dises son nom. Tant bien que mal, et puis après, si tu dois te relâcher, tant pis. Si tu dois partir, ben tant pis.
Ce qui a maintenu en vie Marie-Josée, c'est sa volonté farouche de survivre pour dénoncer son agresseur. Ce n'est qu'à l'hôpital qu'elle est parvenue, malgré son état, à épeler son nom. Patrick Tissier, le tueur en série déjà connu des services de police, est alors très activement recherché. À l'époque des faits, René et Robert étaient policiers. C'est René qui, le premier, a recueilli le témoignage de Marie-Josée à l'hôpital. S'ils sont aujourd'hui devenus amis, c'est que 10 ans après son agression, Marie-Josée a éprouvé le besoin de revoir ces deux hommes. Ils étaient sans doute les seuls à pouvoir comprendre ce qu'elle a vécu et avec qui elle pouvait en parler.
Ben écoutez, moi, c'est simple, pour être franc, j'ai jamais vu de personne en vie dans cet état. J'ai vu des morts, très abîmés, mais Marie-Josée, elle était vraiment défigurée, entièrement défigurée.
En 30 ans de carrière, il ne vous était jamais arrivé de
non, sur une personne vivante, non. Non. Et bon, il fallait lui faire répéter 50 fois les mots parce que je ne les comprenais pas. Et donc, avec beaucoup de patience et sans l'avoir trop secoué quand même, j'ai réussi en gros à savoir l'essentiel.
Tu m'as pris la main et puis tu m'as dit, allez, on va attendre un peu. Tu m'as caressé la main.
Lorsqu'on croise comme ça une victime qui est très abîmée, est-ce que ça décuple votre volonté d'attraper l'auteur?
Ah oui, c'est de la haine qu'on ressent.
C'est de la haine, ouais.
C'est de la haine, oui.
Autant on peut avoir une immense compassion pour la victime, ce qui est tout à fait naturel, je pense. Hein. Autant on a cette force de se dire, il faut y arriver. Il faut arriver à identifier, à intercepter, à neutraliser l'assassin.
La traque de Patrick Tissier est lancée depuis 3 jours quand on apprend qu'une petite fille a disparu. Du fond de son lit d'hôpital, Marie-Josée comprend qu'il s'agit de la petite Karine que lui a montré Tissier en photo juste avant de l'agresser. Elle informe immédiatement le policier en faction devant sa porte. 8 jours plus tard, Patrick Tissier est arrêté. Il conduira la police auprès du corps de la fillette abandonnée dans un puits, assassinée et violée. Un traumatisme supplémentaire pour celle qui a survécu au tueur.
Je faisais que crier, que pleurer. Mais en moi, c'était des hurlements de colère. Et moi, j'avais parlé pour pas qu'il recommence. Alors ça m'a encore plus troublée. Mm-hmm. Et puis en fait, il l'a fait sur une enfant. Et ça, c'est... Non, pour moi, c'est pas possible.
Vous en êtes voulu à ce moment-là d'être encore en vie? Est-ce qu'on culpabilise finalement de s'en être sorti?
J'ai culpabilisé, oui. Et pourquoi elle et pas moi? Mm-hmm. C'est ça qui fait mal. Moi, j'étais vivante. Elle était morte. Voilà.
Après être sortie de l'hôpital, Marie-Josée est restée 12 mois en clinique psychiatrique pour pouvoir surmonter la violence de cette agression et accepter d'avoir survécu. Patrick Tissier avouera plus tard le meurtre d'une femme en août 93, un mois à peine avant l'agression de Marie-Josée. En 3 mois, Tissier aura commis 3 agressions, dont 2 meurtres. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dont 30 ans incompressibles. Marie-Josée s'efforce chaque jour d'oublier ce drame et passe beaucoup de temps avec ses amis. Parmi ceux-là, Eric et Eliane sont toujours restés près d'elle pour la soutenir.
Vous avez le souvenir d'une Marie très tonique.
Oh là, oui.
Avant son agression,
oui,
c'était totalement...
Celle-là, oui.
C'est elle qui tenait une famille à bout de bras. Un commerce à bout de bras, un village à bout de bras, parce qu'elle s'occupait des uns et des autres.
En plus, elle participait à beaucoup de fêtes, beaucoup de choses.
Hein. Que j'organisais.
Oui, que tu organisais, hein, que le village était mort, et qui d'ailleurs est maintenant mort.
Et je suis très fier d'avoir eu l'honneur de partager l'amitié de Marie.
Ça, c'est certain.
C'est une personne qui a vaut la peine, quoi.
Mmh. Vous voulez dire par là qu'elle donne l'exemple aussi par rapport à ce qu'elle a vécu ?
Elle donne l'exemple, elle montre que la résilience existe, elle montre qu'il faut s'accrocher. Marie a les vertèbres cervicales broyées, elle a le larynx complètement broyé, elle est obligée de vivre en portant continuellement une minerve. Et je pense qu'elle s'est sortie de cette affaire justement par ce pouvoir de résilience qu'elle a et cette force physique. Je pense qu'un individu ordinaire, en vivant ce qu'elle a vécu, n'aurait pas survécu.
Enfin, je pense que Marie aussi nous a envoyé un message d'envie de vivre. Elle passait si près de la mort, elle a failli nous quitter. Et ça, c'est quelque chose d'important. Elle nous montre qu'on peut vivre.
Vous avez été la première personne qu'elle a prévenue. Est-ce que vous vous souvenez du moment où elle vous a appelé ?
Oh oui, que je me souviens, elle m'a appelé au secours. J'ai entendu deux, trois mots. J'ai entendu « je suis morte hein, », « il m'a tué ». Mais j'ai entendu au son de sa voix que, effectivement, c'était grave. Il y a quelque chose de très, très grave. Donc j'ai appelé tout de suite les secours, les pompiers qui sont venus à son domicile. Donc le lendemain matin, à la première heure, je me suis transporté vers l'hôpital pour voir ce qu'il a été. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était bien au-delà de ce que mon imagination pouvait voir. J'ai eu un mouvement de recul et je me suis réfréné parce que je n'ai pas voulu qu'elle se rende compte de cette gravité. Le visage était totalement noir. Mmh. Donc les yeux étaient injectés de sang à tel point qu'on ne savait pas de quel côté elle regardait, si elle était vivante, c'était inconcevable.
Vous avez perçu tous les deux tout de suite que Marie-Josée était passée tout près de la mort.
Même moi je me suis dit c'est pas possible, elle va pas s'en tirer, elle va avoir quelque chose dans la tête, c'est pas possible. Mm-hmm. C'est inimaginable.
Quel sentiment vous avez eu au procès en revoyant cet homme ?
Une horreur. Non pas sur les actes qu'il était capable de faire, mais l'horreur de voir une personne dénuée de tout sentiment humain qui soit capable de rire de ce qu'il a fait.
De ce qu'il a fait, oui.
Il a ri ?
Ah oui,
c'était pour lui une chose normale. Hein. Même se demandait comment elle pouvait rester. C'est pas possible.
Mais c'était peut-être parce que c'était nécessaire de rester à ce procès, non ?
Je le passe.
Oui, puisque tous les experts ne tenaient pas du tout à ce que j'assiste à ce procès. Mais j'ai dit non, il faut que j'y sois. Et ça m'a servi de thérapie. Parce que je suis allée à la barre et je lui ai parlé. Je l'ai traité de tout. Et tout le monde a applaudi.
Aujourd'hui, Marie-Josée tente de vivre comme tout le monde. Elle me conduit là où elle aimait se promener autrefois, un endroit magnifique dont elle ne profite plus que rarement. Ça a une saveur particulière quand même de pouvoir encore profiter de ces moments-là.
Oui.
Même si aujourd'hui, vous êtes...
Je suis limitée de tout.
Ouais.
De tout. J'ai l'impression d'avoir un corps de vieille. J'ai pas 62 ans pour moi. Mmh. Tellement je suis épuisée. Avant que je parle avec le psychologue et tout, on passe souvent au suicide. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais devenir ? J'ai tout perdu. J'ai perdu la vie. Parce que pour moi, c'est perdre la vie dans l'état que je suis maintenant. Je peux plus, pratiquement plus rien faire. Maintenant, me suicider, non. Je pense plus à ça. Mmh. Tout le monde me dit que c'est ma force de caractère qui me fait avancer. C'est la vérité, parce que j'ai une volonté féroce à me maintenir.
C'est cette volonté qui vous a sauvé la vie.
C'est la volonté. C'est la force de caractère. Même si, au fond de moi, il y a un peu de haine. Il y a de la haine. Vous savez, j'ai vécu la mort. Et c'est une lutte. Une lutte constante. Et tous les jours. Et tous les jours. Tous les jours.
Alors aujourd'hui, vous avez moins cette peur ou comment est-ce que vous gérez
ma peur, je l'ai toujours. Mais le pire, c'est quelqu'un qui marche dans mon dos. Parce que je me tétanise. Il m'arrive de m'arrêter pour laisser passer. Tout ça, c'est le résultat de quand il m'a pris par derrière et qu'il m'a serré sous foulard. Et ça reste, mais c'est...
C'est comme imprégné en vous ?
Assez imprégné en moi. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que comme j'ai de moins en moins de force, j'ai encore plus peur.
Même si aujourd'hui la vie de Marie-Josée est douloureuse, elle est consciente que le fait d'avoir survécu au tueur a mis fin à son macabre parcours.
Je vais vous dire, Olivier, si j'avais pas parlé, il serait toujours en fuite. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il en aurait tué. Partout où il serait passé, il l'a fait. Je suis sûre. Et je répéterai toujours, 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 qu'il va recommencer. Alors, il faudrait que je me taise aujourd'hui, parce que je suis vivante. Mais non, c'est peut-être une colère en moi. Mais il faut dire les choses.
Je quitte Marie-Josée avec ce sentiment d'avoir rencontré une véritable combattante. Cette femme est un exemple de ténacité et de courage. Elle est encore debout à force de volonté, cette volonté qui lui permet de surmonter au quotidien un traumatisme profond qui, je le crains, ne la quittera jamais. Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask, Clémence Olivier et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer, ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au jeudi à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.